Bonjour, on m'a demandé de parler de la Renaissance dans le contexte du Sangha de Dublin, donc j'ai décidé d'en faire profiter Paris. Donc pour commencer, je dirais que la Renaissance ou les gens, la perception que les gens ont de la Renaissance dans le bouddhisme, c'est quelque chose qui, la plupart des gens en parleront sous forme de réincarnation. Les gens pensent que quand on est bouddhiste, on croit que on se réincarne et puis je suis un chien dans cette vie et puis je suis un chat dans l'autre et ce genre de choses. Donc quand on dit qu'on est bouddhiste, souvent les gens croient que c'est ce qu'on croit. Je dirais pour commencer que accepter ce genre de vue n'est pas central au bouddhisme. La doctrine centrale du bouddhisme, elle a été énoncée par le Bouddha quand il a vu ce qu'il décrit comme étant les choses telles qu'elles sont. Et cette doctrine, ça s'appelle la coproduction conditionnée ou bien la conditionnalité, la loi de la conditionnalité. Donc c'est ça la doctrine centrale du bouddhisme. Le Bouddha en a aussi dit que c'était quelque chose de très difficile à voir, de très difficile à comprendre pour nous, pour les gens non éveillés. Donc si vraiment on voit et on comprend cette loi de la conditionnalité, on est éveillé. Donc pour commencer, je dirais, il est normal qu'on se trompe, il est normal que l'on vienne de pôles faux, disons, de choses fausses dans notre expérience. Du temps du Bouddha, la vue générale dans l'Inde, c'était que il y avait réincarnation, c'est-à-dire qu'il y avait une âme éternelle qui bougeait de corps en corps et qui se réincarnait pour obtenir une nouvelle vie, entre guillemets. Donc pour le Bouddha, c'était ça qui était le plus présent dans la société dans laquelle il vivait. Donc quand il a présenté sa doctrine, il en a parlé beaucoup sous forme de cessation. Cessation de ci ou cessation de cela. Et c'est un terme qui, pour nous en Occident maintenant, de nos jours, n'est peut-être pas toujours un terme qui nous éveille, parce qu'on ne vient peut-être pas d'une tendance éternaliste, où un terme de cessation nous soulage. En Occident, à l'heure actuelle, on a deux vues principales. L'une éternaliste, qui est héritée de la chrétienté, où nous avons une âme et nous vivons dans un corps, et puis à la mort, notre âme monte au ciel, notre âme étant éternelle, d'où ce terme éternaliste. Ou bien, il y a une deuxième vue qui est il n'y a rien. Après la mort, le corps physique est tout ce qu'il y a. Et quand on meurt, c'est fini. On fait un grand trou dans la terre, on nous met dedans et voilà. Donc c'était la vue de mon grand-père. C'est pour ça que je le présente de cette façon. Un de mes grands-pères tenait cette vue de façon très forte. Pour arriver à la voie du milieu, pour arriver à la réalité, il est important de voir que on vient d'un côté ou de l'autre, et que si vraiment on avait compris la voie du milieu, on serait éveillé. Donc voilà, donc c'est cela la place de la conditionnalité. Dans mon cas, je vais vous présenter un petit peu ma trajectoire avec le bouddhisme. Je viens d'un conditionnement qui est nihiliste. Mes parents sont d'origine serbe et la Serbie a été sous influence communiste pendant des années, les années où je suis née en tout cas, et les années qui ont précédé, 30 ans, 40 ans qui ont précédé cette période. Donc les vues principales qui ont été autour de moi quand j'étais enfant étaient des vues nihilistes, hein, c'est-à-dire que on vit et quand on meurt, ben voilà, c'est terminé. Il ne reste rien. J'ai été imprégnée de ça enfant. La trajectoire que je vais montrer, si vous n'êtes pas de cette tendance, elle va peut-être pas trop vous parler, mais enfin, on ne sait jamais. Quand j'ai rencontré le bouddhisme, en fait, ça a été une rencontre avec ces vues nihilistes qui, quand le Bouddha parle de cessation, ça n'a pas aidé, en fait. Moi, j'avais besoin d'entendre l'inverse, j'avais besoin d'entendre autre chose. Pendant une période sur plus de 20 ans, je dirais, qui a commencé à mon adolescence, j'ai eu une série de rêves qui se sont produits et reproduits sous une forme très similaire, en fait, qui révèle tout cet aspect, en fait, de ma personnalité ou de mes croyances. Donc, quand j'étais adolescente, j'ai fait le rêve d'une grande vague, un tsunami qui était énorme et remplissait tout l'horizon et qui venait tout submerger à Paris. En fait, j'habitais à Paris à cette époque-là, du 8e étage de l'appartement où nous habitions, je pouvais voir venir cette vague. Et donc, dans ce rêve, qui a sans doute été le plus important de ma vie, je voyais venir cette vague. Et avec lui, l'impossibilité d'échapper à la mort. Et donc, dans mon rêve, j'ai quand même cherché à fuir. Et donc, je fuis de diverses façons. Et puis finalement, je me suis rendu compte que je ne pouvais pas réchapper à cette vague. Et donc, dans mon rêve, je décide de sauter dedans. Et quand je saute dans la vague se dématérialise. Et je me rends compte que je viens de me jeter du 8e étage. Et donc je meurs quand même. Et dans mon rêve, finalement, je me dis, ça y est, je suis morte. Et puis finalement, mais si je pense que je suis morte, c'est que je ne suis pas tout à fait morte. Et je réémerge dans une chambre d'hôpital. Tout ça en rêve. Ce rêve pour moi était très marquant et il s'est reproduit en fait sur une façon très similaire sur une période de 20 ans, toujours avec des tsunamis, toujours avec des vagues gigantesques qui cherchent à me submerger et toujours un terme de fuite, de peur extrême de la mort et puis d'acceptation et de mort en fait. Et une réémergence en fait. À un moment donné, il y a une réémergence dans le rêve, comme un dépassement de cette limite du moment de la mort en fait. Et pour moi, avec ma pratique bouddhiste, cette réémergence a très lentement au cours du temps filtré dans mon inconscient et a commencé à se manifester de façon plus forte. Dans les derniers rêves que j'ai eus, il y a toujours une certaine lutte vis-à-vis de la mort, mais le thème de la réémergence est de plus en plus facile et de plus en plus important. Dans un de mes derniers rêves qui s'est passé il y a seulement quelques mois, la réémergence se passe avec le fait que je me vois réémerger au milieu de l'océan et nager avec des tortues énormes, préhistoriques, avec ce qu'il reste de l'humanité. Et c'est un rêve qui m'a marqué en fait par rapport à ce processus de renaissance. Et je pense qu'il a marqué un tournant dans mes tendances nihilistes, ou un changement sur une longue période dans mes tendances nihilistes. Donc voilà. Donc ça décrit quelque chose, j'espère que ça vous parle. Il n'y a pas assez de temps pour rentrer dans les détails. Mais juste le fait que après avoir réfléchi à la mort, et être passé plus loin. Et qu'est-ce qui se passe quand on ne s'arrête pas là? Qu'est-ce qui se passe quand on continue à réfléchir? Qu'est-ce qui se passe quand on continue à examiner le processus? Il se passe quelque chose d'autre. Et c'est ce processus qui a filtré en fait dans mon inconscient au fur et à mesure du temps et qui est marqué par un sens de neuf, de positivité, de plus de confiance et d'ouverture. De façon éthique, en fait, ça a aussi marqué un changement dans ma perception d'éthique. Puisque par exemple mes tendances nihilistes, je vous donne un exemple, s'attachent à des choses comme la crise qu'on a avec l'environnement par exemple, la planète meurt, anxiété, anxiété, on est en train de tout détruire, peur, panique, trou noir, arrêt, mort, ce genre de choses. En fait, quand le processus de renaissance ou aller prend le dessus ou que quelque chose d'autre est compris, en fait, mon anxiété est moindre. Ça ne veut pas dire que je ne vois pas les conséquences de faire ce qu'on fait à l'heure actuelle dans le monde, mais il y a une plus grande confiance dans un processus. C'est pas une question d'échapper aux conséquences de nos actions de groupe. Il n'y a pas de supériorité là. Mais il y a un sens de réémergence. Donc une confiance dans une certaine réémergence qui en fait me permet de faire face aux situations de crise avec un peu plus de confiance. Et je vois aussi une certaine atténuation de ma souffrance mentale. Une meilleure attitude vis-à-vis des défis de la vie. Comment ça marche, je ne sais pas. Mais en tout cas, réfléchir à la mort, mais plus loin que la mort, et voir une réémergence m'a aidé, c'est certain. Je dirais, en termes occidentaux, la façon dont le Bouddha a décrit sa doctrine, c'est... Je dirais que je l'ai vu pour la première fois quand j'étudiais la physique au lycée. Et qu'on disait, pour résoudre les équations et expliquer les phénomènes, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Donc ce sens que rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Donc, je dirais que la tendance nihiliste, c'est qu'on se perd. Les choses se perdent. La tendance éternaliste, c'est que on met l'accent sur la création. Et la voie du milieu, eh bien, c'est voir les deux processus et voir la transformation. Que dire par rapport à la Renaissance, pour conclure? La Renaissance, je dirais que je n'irai pas donner de discours en disant bien sûr je crois à la réincarnation, bien sûr c'est comme ça de nos jours, mais je dirais que j'ai beaucoup plus de foi que je n'avais avant dans le fait que la mort n'est pas une fin en soi. Que on n'est pas juste jeté dans un trou et c'est fini. Mais je ne dirais pas que je sais exactement ce qu'il s'y passe, mais j'ai plus un sens d'ouverture par rapport à ce mystère et aussi au mystère de l'apparition d'une nouvelle vie. Et je dirais qu'avoir choisi d'avoir des enfants m'a aidée par rapport à mes tendances nihilistes parce que ça a mis plus d'accent encore une fois sur la renaissance. Et sur le flot d'amour qui vient avec l'arrivée d'une nouvelle vie qui est très très mystérieux, tout comme la mort elle-même, que je ne prétends pas pouvoir expliquer. Mais j'espère que vous laissez avec un sens de ce mystère et de sa beauté. Voilà, à bientôt.